Notre invité ce matin est enseignant-chercheur à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Guillaume Cabanac a été sélectionné par la célèbre revue Nature et figure parmi les 10 personnalités qui ont marqué la science en 2021. Je vous propose de découvrir pourquoi il a reçu cette distinction. Bonjour Guillaume Cabanac.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec joie. Maître de conférence en informatique, vous avez levé le voile sur une pratique malheureusement répandue dans le domaine des publications scientifiques, mais en partie encore ignorée des scientifiques eux-mêmes. Racontez-nous, pour commencer, quelle a été cette découverte concernant notamment la Chine et l'Inde?
Oui, il s'agit de deux pays qui produisent des articles scientifiques qui sont publiés, mais problématiques. J'ai créé un logiciel qui permet d'identifier ces articles problématiques en allant fouiller dans les textes qui sont publiés. Ce logiciel, il fonctionne comme un indique qui donne des tuyaux à un détective. Et là, pour le coup, le détective, c'est toute une communauté dont je fais partie, donc une communauté de scientifiques qui sont engagés pour détecter ces erreurs, les signaler et les faire corriger. Parce qu'en fait, on voit que dans notre perception des choses, chacun de ces articles problématiques est une brique de connaissances qui n'est pas fiable. Or, la science fonctionne en empilant des briques de connaissances fiables, ce qui fait que avoir ces briques de connaissances non fiables dans le corpus des connaissances publiées pose problème, puisqu'on ne peut rien construire de très solide sur des briques qui s'effritent, ce qui est le cas actuellement.
Est-ce que c'est une pratique très courante?
Alors, ce n'est pas très courant, en fait. Le corpus qui est indexé, donc qui est numérisé de publications, comprend 120 millions de publications, donc des articles de revues, des articles de conférences. Et parmi ces 120 millions, nous trouvons avec plusieurs détecteurs 5000 articles problématiques uniquement. Et si je fais un focus sur ceux qui ont été pointés par la revue Nature, il s'agit uniquement de 4000 articles scientifiques qui contiennent des phrases torturées. On va y revenir, je pense.
Oui.
Donc, en fait, c'est peu. Ça représente pour 2021 à peu près 3 articles problématiques sur 10 000. Donc, étant donné que les articles scientifiques publiés représentent 16 000 articles par jour, c'est à peu près 3 ou 4 articles problématiques qui arrivent sur mon écran le matin, puisque mon détecteur travaille le soir dans mon laboratoire et je m'occupe des erreurs trouvées le matin au réveil.
Alors justement, vous disiez que votre logiciel travaille toute la nuit, il scanne 16 000 articles, et vous, dans la journée, vous avez cette expertise pour détecter les phrases torturées, vous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces phrases torturées?
Oui, en fait, il s'agit de phrases inhabituelles qui peuvent faire rire, mais en fait, ce n'est pas du tout risible.
Vous avez un exemple?
Donc, oui, dans un article publié, on va trouver, au lieu de intelligence artificielle, conscience contrefaite. Par exemple, il y aurait la conscience contrefaite permettra de guider la voiture dans la ville. Donc, c'est une phrase torturée. Au lieu de cancer du sein, on va avoir péril de la poitrine. Au lieu d'insuffisance rénale, on peut trouver déception du rein.
Donc, chaque mot, en fait, prend un synonyme. C'est ça.
Oui,
on utilise un synonyme.
Exactement. Mmh. Des fraudeurs.
Les fraudeurs, bien sûr. Oui, oui.
Voilà. En fait, ces phrases torturées sont produites par un logiciel qui paraphrase des textes. Mmh. Pour le faire court, des fraudeurs veulent produire rapidement un article scientifique. Ils vont identifier des articles publiés et honnêtes sur un champ de connaissances donné. Ils vont faire copier, paraphraser, coller. Il passe par une étape pour paraphraser en utilisant des synonymes afin de ne pas être détecté par des détecteurs de plagiat qui sont bien entendu utilisés par toutes les maisons d'édition scientifique réputées.
Qu'est-ce que la communauté scientifique a y perdre en fait de ces articles qui sont faussés?
Alors, je pense qu'on peut même ouvrir à qu'est-ce que la société a à y perdre. Ce n'est pas uniquement les scientifiques, c'est la société tout entière. Puisqu'en fait, c'est un peu, je fais le parallèle avec la désinformation. C'est une forme de désinformation en science. Donc, si je veux maintenant restreindre sur les scientifiques, lorsque je forme quelqu'un en recherche, donc une personne en master ou en doctorat, cette personne n'est pas encore capable d'identifier le vrai du faux. Et on peut se fonder sur le sérieux d'une maison d'édition pour se dire, Elsevier, Wiley, Springer, ce sont des maisons très réputées. Forcément, l'article a été évalué par les pairs correctement, comme il se doit, et je vais y faire confiance. Donc, ce n'est pas le cas. Il faut douter. C'est le scepticisme organisé qui prévaut en science. Il faut d'abord douter, puis après être convaincu. Usuellement, c'est ce qu'on fait lorsqu'un article est soumis à l'évaluation par les pairs. Et lorsque l'article est publié, il est réputé avoir été évalué par les pairs et validé.
Donc, est-ce que vous voulez dire que justement les pairs ne font, entre guillemets, pas leur travail et qu'il y a un manque de vérification de ces articles et de ces publications ?
Alors, pour les 3 sur 10 000 en particulier, les maisons d'édition que nous avons pointées du doigt en juillet dernier, là il s'agit en particulier d'Elsevier, a reconnu que sur les 400 articles contenant des phrases torturées ou d'autres problèmes publiés dans une très grande revue de leur groupe, en effet, l'évaluation par les pairs a été compromise. Donc il s'agit, d'après leur communiqué de presse, d'une personne malhonnête qui se serait fait passer pour un éditeur de cette revue et aurait cliqué sur « accepter, accepter, accepter » sur tous les manuscrits soumis par des fraudeurs. Et malheureusement, le problème n'a pas été détecté par ceux qui produisent la revue, mais par nous-mêmes, donc deux collègues, un Français, un Russe et moi-même, qui avons détecté 400 articles scientifiques dans cette revue, qui s'appelle « Microprocessors and Microsystems ».
Et alors, à qui profite le crime, Guillaume Cabanac ? Quel est l'intérêt, en fait, de faire, comme vous dites, du copier, paraphraser, coller d'articles scientifiques ?
Alors, l'objectif ici, c'est de produire des articles scientifiques rapidement, de les rajouter sur son CV, probablement, afin d'être promu ou d'obtenir parfois des compensations financières. En particulier en Chine, ce qui a été documenté, c'est une volonté des chercheurs de publier le plus possible pour rester dans le, c'est pas le jeu de la science, mais pour rester actif en science et ne pas être licencié, en particulier à l'hôpital, pour être promu ou pour transformer une publication scientifique en un montant d'argent, puisque en Chine, dans certains établissements, publier dans telle ou telle revue permet d'obtenir une petite enveloppe à titre personnel, pas pour le laboratoire, mais pour soi.
Est-ce que vous voulez dire que, notamment en Chine, puisque c'est le pays que vous évoquiez, un chercheur, un enseignant-chercheur, s'il ne publie pas, en fait, il perd son travail ?
Alors, pas dans toutes les spécialités. Ce qui a été documenté, c'est le cas des praticiens hospitaliers, donc l'équivalent des praticiens en CHU en France, qui doivent être à la fois des enseignants pour transmettre du savoir aux étudiants, qui doivent être des praticiens, aller opérer par exemple, et qui doivent être des chercheurs avec une spécificité, c'est des chercheurs qui vont trouver obligatoirement, qui devront atteindre un certain quota, donc publier par exemple 2 articles dans des revues du plus haut niveau international pour faire briller la Chine, puisque la Chine avait pour objectif de surpasser les États-Unis en termes de production scientifique. En volume, ils y sont arrivés il y a quelques années. Et désormais, le focus est mis sur la qualité. Donc, on demande aux chercheurs chinois de produire beaucoup, mais dans les meilleures revues, ce qui explique peut-être pourquoi nous avons trouvé dans cette revue Microprocessors et Microsystems 400 articles qui provenaient principalement de Chine et d'Inde.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, alors, outre évidemment le développement de votre logiciel et son travail de scan pour toutes ces publications, est-ce que les chercheurs pourraient avoir une sorte de routine, d'hygiène pour éviter justement ce plagiat de leurs articles ? Enfin, c'est plus qu'un plagiat, c'est un vol, voilà.
Oui. La science, elle fonctionne sur des piliers, en fait. Et un de ces piliers, c'est le scepticisme organisé. Ça veut dire que lorsque je travaille en tant que chercheur, on va me solliciter pour évaluer des articles produits par des collègues qui peuvent se trouver dans le monde entier, que je ne vais pas connaître puisqu'on élimine leur nom et leur affiliation pour pas me biaiser mon évaluation. Donc le premier point ici, c'est d'organiser une évaluation par les pairs avec de vrais experts et avec des experts qui vont prendre le temps de faire le travail. Si je prends le cas du Covid-19, par exemple, du jour au lendemain, il a fallu trouver des milliers d'experts du Covid-19 et des coronavirus.
Dans l'urgence.
Alors qu'une semaine avant, il y en avait très peu dans le monde. Vous voyez le type de problème qui peut se poser. En fait, ce problème se pose pour toutes les disciplines, avec moins d'ampleur, bien sûr, Mais étant donné que le monde entier produit davantage de science, ce qui peut être critiqué parce que certaines productions ressemblent à du... En anglais, l'expression, c'est salami slicing. Ça veut dire que j'ai un salami, c'est comme un résultat de recherche. Et slicing, je vais le couper en petites tranches et essayer de publier autant de tranches que d'articles. Oui. Plutôt que d'en faire un seul, je vais en faire cinq. Donc ça, c'est une critique du système actuel qui pousse les chercheurs à essayer de publier le plus petit...
En tronçon, en fait.
Élément en tronçon, exactement. Mais ce qui demande pour chaque article, lors de l'évaluation par les pairs, d'être évalué par deux ou trois experts, et ce qui démultiplie la demande en tant qu'expertise.
D'accord.
Donc peut-être que la communauté scientifique devrait diminuer ses incitations à publier ou périr. Donc c'est une expression qui existe depuis des décennies. Publish or perish, ça veut dire tu publies
ou tu meurs.
Tu péris, tu n'existes plus en science. Voilà. Donc au lieu de compter...
Il vaudrait mieux s'attacher à la qualité plutôt que la quantité, en fait, des publications.
Voilà. D'accord. Au lieu de compter, les panels devraient davantage lire des articles scientifiques. C'est ce qui est fait en France au niveau du Conseil national des universités auquel j'ai pu participer. On demande aux chercheurs de lister tous ces articles, ok, avec juste le titre et les co-auteurs et les noms des revues, mais aussi d'indiquer les cinq qu'un chercheur mettra en avant, cinq sur une carrière, par exemple.
Les cinq que quoi?
Davantage. Cinq articles.
Hein. Les cinq articles,
voilà.
D'accord.
Voilà. On a vu dans l'actualité que des chercheurs de renom peuvent publier des centaines d'articles dans leur carrière. Oui. Donc au lieu d'avoir uniquement la liste des centaines d'articles, on demande aux chercheurs, ok, un être humain, il fait des contributions en science et pour la société, mais il n'en fait pas des centaines. Donc quelles sont les cinq contributions principales que vous avez produites et nous allons expertiser ceci.
D'accord, vous demandez une sélection. Il est déjà temps de nous quitter, Guillaume Cabanac. Merci beaucoup de nous avoir présenté le fruit de votre travail, un logiciel qui débusque les fausses publications scientifiques et pour lequel vous venez d'être sélectionné parmi les 10 personnalités scientifiques les plus marquantes de l'année 2021. Bravo.